Κραστούβιστη να Ευρώπα.
Κουζμιόν του τα Ευρώπα.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. En ce dimanche 1er décembre, l'information n'a pas forcément fait la une de tous les médias. Et pourtant, aujourd'hui, la Commission européenne, conduite par Ursula von der Leyen, a pris officiellement ses fonctions. Elle succède à la Commission Juncker, qui pendant 5 ans a présidé aux destinées de l'Union européenne. La Commission Juncker a-t-elle tenu toutes ses promesses, secouée par le scandale des LuxLeaks, la difficile gestion de la crise grecque, la déferlante des réfugiés de 2015 ou encore l'interminable Brexit? Et puis, quel défi pour la Commission von der Leyen? Nous allons poser ces questions à un tout jeune ex-commissaire européen aux affaires économiques, financières et fiscales. Bonjour Pierre Moscovici.
Bonjour, pas tout jeune. Tout jeune ex-commissaire.
Et en effet, il est à 19h11 et 35 secondes, très exactement. Vous étiez encore le commissaire aux affaires économiques, financières et fiscales. Alors vous voilà libéré de votre obligation de réserve et vous allez pouvoir nous raconter tout ce que vous avez toujours voulu dire sur l'Union européenne et la face cachée de la Commission, sans avoir pu le faire jusqu'alors. À mes côtés, pour vous interroger, Catherine Châtignoux. Bonjour Catherine.
Bonjour Daniel.
Vous êtes journaliste quotidien Les Échos en charge des questions européenne. Et puis au cours de cette heure nous allons passer ensemble, Beniamino Morante, journaliste à la rédaction de Courrier International, le partenaire historique de Carrefour de l'Europe, vous posera aussi quelques questions.
Ma conviction est que cette commission sera la commission de la dernière chance. Soit nous réussissons à rapprocher les citoyens européens de l'Europe, soit nous échouons. Je voudrais que nous saisissions cette chance pour faire bouger l'Europe. L'Europe le mérite et je compte sur vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour appuyer la Commission dans ces multiples tâches qui sont devant nous, qui sont devant vous.
Pierre Moscovici, c'est une voix que vous connaissez très bien.
Oui, je la connais bien depuis longtemps, puisque nous sommes des complices, des amis, depuis près de 25 ans maintenant. Et je veux faire à Jean-Claude Juncker, qui a terminé hier une carrière
comme
politique
vous.
Extraordinairement longue, extrêmement fructueuse, un signal amical.
Alors effectivement, c'était Jean-Claude Juncker en novembre 2014 au Parlement européen à Strasbourg. Cette commission de la dernière chance en 2014, c'est vrai que l'Union européenne n'avait pas très très bonne presse à l'époque. Après la crise de 2008-2009, elle est rendue responsable par les citoyens européens de la politique d'austérité que la plupart des pays conduisent en Europe.
Écoutez, Jean-Claude Juncker a dit en 2014, commission de la dernière chance, et à l'évidence, il parlait d'abord de la situation économique et il parlait aussi de la crise grecque. Il se trouve que j'ai été le commissaire en charge d'affaires économiques et aussi le négociateur de la commission avec la Grèce. Et je termine ce mandat, et je pense que la commission Juncker peut terminer ce mandat, avec ce que j'appellerais une fierté raisonnable. Si cette commission n'avait pas été là, sans aucun doute les politiques d'austérité se seraient poursuivies. Ça n'a pas été le cas. J'ai introduit, avec l'aval du président, dans ce qu'on appelle la surveillance budgétaire, dans le respect des critères, ce qu'on appelle la flexibilité. Et donc, pendant ces 5 ans, aucun pays n'a été contraint, puni, sanctionné. Et on a toujours eu, par le dialogue, à la fois la baisse des déficits, car ils sont maintenant en dessous de 1% dans la zone euro, et la croissance. Donc,
on va y revenir dans un instant, parce que Beniamino Morante, qui est italien et journaliste à Courrier International, s'occupe notamment des pages d'Italie de Courrier International, et tout naturellement, sa première question porte sur l'Italie.
Pierre Moscovici, une certaine partie des politiques italiens vous ont souvent pointé du doigt, vous avez été souvent pointé du doigt comme l'un des symboles, en fait, d'une application des critères de Maastricht trop stricte, c'est-à-dire imposant une austérité qui est clairement contre-productive aux États du sud de l'Europe. L'année dernière, juste pour rappeler le contexte, le gouvernement 5 étoiles Ligue a voulu voter un budget en déficit de 2,4%. Et l'UE, la commission en tête, bien sûr, s'est fortement opposée à ça. Elle a été alors accusée par le gouvernement de limiter sa souveraineté, de condamner le pays à ne pas pouvoir dépenser pour se relancer. Et donc, ce que je voudrais comprendre, moi, c'est ma question, c'est comprenez-vous ces critiques? Est-ce que vous les entendez? Et surtout, est-ce que vous pensez que dans un futur proche, les critères de Maastricht doivent forcément demeurer tels quels ou qu'ils pourraient être modifiés dans un futur proche avec la nouvelle commission?
J'entends toutes les critiques, mais celle-ci, franchement, j'en souris. Parce que s'il y a un pays dans la zone euro qui a bénéficié de toutes les flexibilités prévues par le pacte, qu'il s'agisse de l'investissement, qu'il s'agisse des réformes structurelles, qu'il s'agisse de la conjoncture, et on a des événements dramatiques comme par exemple l'effondrement de ce pont à Gênes, c'est l'Italie. Si un pays a été l'objet de toute l'attention et parfois de l'indulgence de l'Union européenne, c'est l'Italie. Et vous savez, j'ai discuté avec plusieurs gouvernements, j'ai dialogué avec plusieurs gouvernements, y compris avec le gouvernement Salvini-Di Maio, À chaque fois, on a trouvé un accord avec le gouvernement italien. Et je pense que les Italiens, au-delà des journalistes, savent que cette commission a été aux côtés de l'Italie, que nous avons toujours eu à cœur de faire en sorte que ce pays, qui est la troisième économie de la zone euro, connaisse une croissance aussi forte que possible et surtout échappe à toute sanction. Mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'Italie a un problème que personne ne peut ignorer. C'est l'ampleur de sa dette publique, qui est à hauteur de 135%. C'est le seul pays dont la dette publique continue d'augmenter. Et donc, il ne s'agit pas de réfléchir par rapport au budget à 2,4%. Il s'agit de se demander comment on peut réduire la dette publique en Italie. Et de ce point de vue-là, puisqu'on m'interroge sur les critères de Maastricht, j'ai envie de dire que le problème des 3% n'est plus le problème d'aujourd'hui. Aucun pays n'est contraint par les 3%. Il n'y a plus de pays en procédure de déficit excessif et la moyenne des déficits est tout simplement à 0,8%. Non, le vrai problème pour la zone euro, c'est l'ampleur des dettes dans un certain nombre de pays. C'est le cas encore en Grèce, c'est le cas en Italie, c'est le cas, à un moindre titre, en France ou en Belgique. Et il faut que les pays qui sont endettés, pour leur propre bien, continuent à réduire leurs dettes. Parce que un pays qui s'endette, c'est un pays qui s'appauvrit en vérité. Tout euro consacré au remboursement de la dette est un euro en moins pour l'économie, pour les services publics, pour l'hôpital, pour la justice, pour la sécurité, pour l'éducation. Et donc, continuons le désendettement. D'un autre côté, il y a des pays dans l'Union européenne, je pense à l'Allemagne et aux Pays-Bas, qui ont des excédents absolument considérables, à la fois en termes de commerce extérieur et en termes budgétaires. Eh bien, je pense que ces excédents devraient être utilisés davantage à investir pour leur propre croissance. Et l'Allemagne, par exemple, commence à en avoir besoin, et investir pour la croissance de la zone euro. Bref, je crois que le vrai problème...
C'est de trouver un équilibre.
Le vrai problème, c'est d'une part, sans doute, de changer les règles, mais pour qu'elles soient plus simples, plus lisibles, et notamment qu'elles permettent la réduction de la dette. Ça doit être vraiment le fil rouge de tout ça. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que nous sommes en ralentissement dans la zone euro. Aujourd'hui, nous restons en croissance. C'est la 7e année de croissance consécutive, mais il n'y aura pas de rebond probablement ni en 2020 ni en 2021. Ce qui veut dire qu'on va rentrer sur un régime de croissance plate, assez faible, autour de 1%, 1,5%. Pas suffisant pour continuer à faire baisser le chômage autant qu'il a baissé pendant les 5 années où Juncker était président, où j'étais commissaire. De 2014 à 2019, le chômage dans la zone euro est passé de 11,5% à 7,5%. On voit bien que ça ne va pas continuer à ce rythme-là. Et donc, il ne faut pas faire une relance budgétaire uniforme en Europe, ça n'aurait pas de sens. Uniforme dans la zone euro, ce serait absurde. En revanche, le temps d'une relance coordonnée, ceux qui peuvent le faire le font, ceux qui doivent faire des efforts le font aussi. Ce temps-là, il est en train d'approcher. Et il y a une chose qui va être décisive, c'est sans doute la situation de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, aujourd'hui, est entrée, on le voit bien, dans une remise en cause structurelle de ses paramètres. C'est pas seulement un problème conjoncturel, c'est pas un problème de diesel ou de fraude de tel ou tel constructeur automobile. C'est simplement que le tout automobile n'est plus aujourd'hui ce qui tire la consommation. Et donc il faudra que l'Allemagne, sans doute, réinvente un modèle. C'est d'ailleurs ce que souhaitent à la fois les syndicats et les industriels.
Ça veut dire qu'elle, ça la pousserait à investir davantage sur le plan national et éventuellement distribuer davantage, investir davantage dans la zone euro, ce qu'on lui demande depuis des années.
Mais vous n'êtes pas échappé d'abord qu'elle a commencé à le faire,
ouais.
Et je l'ai souligné, mais de manière encore très
modeste.
Insuffisante. Et deuxièmement, que des organes comme le BDI, ce sont les industriels, c'est l'équivalent en quelque sorte du MEDEF dans l'industrie, et d'un autre côté, le DGB, c'est-à-dire les syndicats unis, les deux ont écrit un papier commun pour demander au gouvernement d'investir plus. Pourquoi ? À la fois parce qu'il faut sans aucun doute relancer le modèle de croissance allemand, le réformer aussi, et parce qu'il y a un manque cruel en Allemagne, c'est un paradoxe peut-être, d'infrastructures, de services publics. De ce point de vue-là, la France est beaucoup mieux outillée que l'Allemagne.
Et donc, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut le débat sur ces 3% est d'un autre âge, il veut dire qu'il faut investir davantage et cesser de se préoccuper de ce chiffre un peu dogmatique. Est-ce qu'il a raison de ce point de vue-là, de dire au fond ces 3% c'est provocateur, mais en même temps ça veut dire... Investissons davantage pour répondre à tous les défis qui nous attendent, de la numérisation de l'économie à la transition climatique. Il y a effectivement beaucoup d'argent
nécessaire. Mais je ne crois pas que quiconque, y compris le président de la République, demande aujourd'hui de dépasser les 3%. Encore une fois, considérons que ce débat est pour une longue période réglé.
Est-ce que c'est un dogme des 3%?
Mais c'est pas une question de dogme. La vérité, c'est qu'on parle des 3%, les 3%, les 3%, les 3% tout le temps.
La France les a frôlés à maintes reprises.
Elle les a frôlés à maintes reprises, mais aujourd'hui, elle est à 2,2. Et l'Italie est à 2,4, 2,5. L'Espagne est autour de 2. Mais la moyenne de la zone euro, la moyenne est à 0,8. Donc, ne soyons pas en train de faire comme s'il fallait dépasser les 3%, comme si on voulait le faire. Il ne le faut pas et personne ne le souhaite. En revanche, là où Emmanuel Macron, et je pense que c'est pas ce qu'il a voulu dire, il a voulu dire n'en parlons plus, ne parlons pas de ça, ne soyez pas obsédés par ça, mais il faut investir pour croître. Et de ce point de vue-là, il a parlé d'un autre chiffre qui est très important, pas seulement 3% de déficit, mais 1%, c'est le montant du budget communautaire. Si on veut à la fois avoir une politique agricole ambitieuse, avoir une politique de cohésion qui signifie quelque chose, avoir une politique sociale, avoir une politique éducative, investir dans la recherche, protéger nos frontières, et faire la défense européenne, faire que la jeunesse puisse voir les crédits de Erasmus doublés, on peut pas s'en tenir aux limites actuelles du budget européen qui est de 1% du PIB. Donc je pense qu'il faudra avoir ce débat-là, que ce sera une des tâches du prochain chef du Conseil européen, Charles Michel, du prochain Conseil européen, que d'arrêter le budget pour les années 2021-2027 et le faire avec un degré d'ambition suffisant. Et puis, il y a d'autres investissements qu'il faut faire, mais qui ne sont pas forcément liés aux 3%, qui sont souvent extra-budgétaires. Je prendrai le cas du plan Juncker, de 500 milliards d'euros, qui a permis d'investir davantage, qui a contribué à la relance de l'investissement en Europe. Et on voit bien que Ursula von der Leyen a un grand projet que je soutiens, je veux dire comme tout le monde, parce qu'il est d'intérêt commun, c'est ce fameux Green New Deal, et ça, ça va exiger des milliards d'euros d'investissement. Et pour ça, il faut aussi mobiliser la finance publique, pas seulement les déficits budgétaires.
Oui.
Ce que nous avons fait avec le plan Juncker, c'est la Banque européenne d'investissement. La Banque européenne d'investissement a été, comme son nom l'indique, la banque de l'investissement. Elle peut être aussi la banque du climat. Donc voilà, je pense qu'il faut...
Elle a déjà commencé, puisqu'elle ne financera plus, par exemple, tout ce qui est énergie fossile.
Oui, c'est bien pour ça que je dis qu'il ne faut pas réfléchir sur les 3%, il faut réfléchir plus globalement. Comment est-ce qu'on investit? Comment est-ce que le budget européen est plus ambitieux? Comment est-ce qu'on a un financement du climat qui également est plus exigeant et plus puissant? Voilà les vraies questions. Et à côté de ça, les règles européennes ne sont pas pour moi un tabou, mais c'est pas les 3% dont il s'agit. C'est essentiellement de ce qu'on appelle le déficit structurel, de règles qui sont, je l'ai vu moi-même, extraordinairement tatillonnes et qui sont sujettes à interprétation. Et de ce point de vue-là, je réponds à nouveau à notre ami italien que, franchement, cette commission a été, par rapport à l'Italie, mais d'une zénitude, d'une sérénité, d'une douceur.
Mais est-ce que vous êtes confronté à Valdis Dombrovskis, qui était aussi lui en charge de l'euro, qui était censé vous superviser, surveiller un petit peu ce que vous faisiez? Est-ce que vous êtes confronté à lui? Est-ce qu'il y a eu des débats, lui étant un adepte plutôt d'une ligne dure, d'une application stricte des traités, et vous, davantage dans la souplesse, dans la politique?
À l'allemande, on va dire. Voilà. À l'allemande.
Ces histoires de supervision, le rapport entre un vice-président et un commissaire n'est pas de cette nature-là. En vérité, c'est le commissaire qui a la vraie responsabilité, parce que tout simplement, c'est lui qui dispose des directions générales, des services, de l'administration. J'ai bien travaillé avec Valdis Dombrovskis, mais disons-le, la politique telle qu'elle a été définie, en matière de finances publiques, de surveillance budgétaire, a été la mienne, intégralement la mienne, avec le soutien de Jean-Claude Juncker, et n'a jamais été une politique d'austérité. Non. Et s'il y avait eu confrontation, comme vous dites, je sais qu'il aurait gagné.
Alors, un mot sur le budget que vous avez évoqué. Aujourd'hui, c'est 1% du PIB européen. C'est assez insuffisant. Mais il y a l'idée d'avoir un deuxième budget, celui de la zone euro. Y êtes-vous favorable? Est-ce que c'est une piste qu'il faut tracer?
J'y suis favorable depuis 2013. Je l'avais écrit quand j'étais ministre de l'économie et des finances de ce pays, la France. Et voyez-vous, je disais, je pars avec une fierté raisonnable. Je suis fier qu'effectivement, on ait eu un traitement intelligent de la surveillance budgétaire. Je suis très fier, on en reparlera peut-être, que la Grèce ait évité la sortie de la zone euro. Je suis très, très fier d'avoir pu faire voter 20 directives en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, et plus en quantité et en qualité. Mais je veux quand même avoir
la vue globale.
Et sur ces trois thèmes-là, je dois le dire, cette commission a réussi à créer une situation qui était favorable en matière économique. Mais je ne suis pas autosatisfait. Je sais ce qui a manqué, et notamment en matière de réforme de l'architecture de la zone euro, qui est pour moi un sujet sur lequel je milite depuis des années, je suis déçu. Et quand je regarde, par exemple, ce qu'on appelle le BIC, c'est-à-dire l'instrument budgétaire pour la convergence et la compétitivité, non, c'est pas un budget de la zone euro.
La faute à qui?
C'est un embryon de la zone euro. La faute à qui? La faute aux États membres. La faute aux divisions qui se produisent, non seulement entre le Nord et le Sud, mais aussi maintenant avec un nouveau groupe qui s'appelle la Ligue Hanséatique, qui pense qu'on est encore trop ambitieux. Mais il va falloir continuer à se battre. Nous avons besoin d'un budget de la zone euro qui soit beaucoup plus important en montant, et qui est aussi une fonction dite de stabilisation, pardonnez-moi d'être un peu technique, ce qui signifie, en bref, qu'il est capable aussi de réduire les inégalités en cas de choc. Et donc, moi, je pense que dans les 5 prochaines années, la Commission, que ce soit Valdis Dombrovskis et surtout mon successeur Paolo Gentiloni, qui est un ancien Premier ministre italien du Partito Democratico, et je pense que l'une de leurs tâches, ce sera de continuer à avoir une appréciation flexible des règles, de réformer le pacte de stabilité et de croissance pour le rendre plus lisible et de l'orienter autour de la dette, mais aussi d'être plus ambitieux dans l'architecture de la zone euro. On a fait des choses, notamment on a amélioré l'union bancaire. On n'a pas fait autant qu'il le fallait.
On dit que la zone euro n'est pas prête à affronter une prochaine crise.
Je pense qu'elle est prête à affronter davantage une crise bancaire nouvelle. Précisément peut-être parce qu'il n'y
a pas ce budget de la zone euro qui permettrait justement d'intervenir en cas de choc
Alors, d'abord, si on regarde avec la crise de 2008, si on regarde le système bancaire, je pense que notre système bancaire, pour le coup, est beaucoup plus robuste qu'il l'était à l'époque, qu'il est beaucoup mieux supervisé et qu'on a aussi les instruments pour faire face à l'éventualité d'une faillite d'une grande banque ou d'un choc systémique. Donc, l'union bancaire qui a été lancée en 2012-2013, qui a progressé...
Reste inachevé,
il manque le troisième pilier qui est la garantie des dépôts. Cette union bancaire protège le système financier. De ce point de vue-là, je suis assez confiant. En revanche, s'il advenait qu'il y ait un ralentissement supplémentaire, alors là, il faudrait jouer de toute une série de cordes. Je pense notamment à ce que je disais sur la relance coordonnée, le moment venu. Écoutez, j'ai utilisé une métaphore. On est en hiver, on approche de l'hiver. Quand il fait froid, il faut augmenter le chauffage un peu. Mais il faut l'augmenter dans les bonnes pièces. Il ne faut pas augmenter le chauffage dans les pièces où il fait déjà chaud. Il faut augmenter le chauffage dans les pièces où il fait froid. Et si vous me suivez, donc il faut absolument que certains continuent leurs efforts, pendant que d'autres accentuent leur investissement. Et enfin, il faudra que tous les outils de l'investissement soient stimulés. Et de ce point de vue-là, en effet, je pense qu'il y en a un qui nous manque, ça fait aussi partie de ce que disait Emmanuel Macron, c'est le budget de la zone euro. Et c'est ce qu'il avait dit dans son discours de la Sorbonne, c'est ce qu'un certain nombre d'économistes disent depuis le début des années 2010, c'est ce que j'avais dit, c'est ce qu'avait dit Pier Carlo Padoan, par exemple, le ministre italien des Finances. Nous avons impérativement besoin de ce budget de la zone euro, et je souhaite que la prochaine commission, ou le prochain mandat de la commission, en tout cas, dans les 5 années qui viennent, jusqu'en 2024, voit naître le premier vrai budget de la zone euro, c'est-à-dire avec un montant suffisant et avec une ambition qui soit également à la hauteur.
Pierre Miskovici, 2 minutes, pas plus, pour parler de la Grèce, qui a failli quitter la zone euro. Alors la Grèce, quand même, c'est un pays qui a menti sur ses chiffres, sur la réalité de sa situation économique et financière. Et c'était quand même très très mal parti, parce que l'Allemagne n'était pas très très favorable à ce qu'il faille soutenir à bout de bras la Grèce pour que ce pays ne sorte pas de l'euro.
Je parlais de fierté raisonnable. Moi, je vais écrire tout ça un jour. Je ne vais pas tout dire le premier jour, ne serait-ce que parce que les commissaires gardent une obligation de dignité et de loyauté à l'institution à vie. Donc on ne va pas se mettre, par exemple, je ne raconterai jamais ce qui se passait au collège. Vous me demandez mes débats avec vous, Dombrovskis. La seule chose que j'en connais, c'est le résultat. Mais sur la Grèce...
Une minute.
Fierté, pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'un pays, l'Allemagne, avec un gouvernement conservateur, avec un ministre fort, Wolfgang Schäuble, voulait que la Grèce sorte de la zone euro en 2015. Et en face de lui, il y a eu la France et la Commission européenne. Et je suis certain que s'il n'y avait pas eu ces deux protagonistes aux côtés de la Grèce, nous aurions vécu le Grexit et que ça aurait signé le début de la fin de la zone euro. Je ne nie pas les souffrances sociales en Grèce. Je les connais. Je sais qu'il y a eu des erreurs aussi. Je sais que l'Eurogroupe, c'est le ministre des Finances, c'est pas une instance assez transparente. C'est une boîte noire qu'il faut ouvrir. Il faut un contrôle démocratique. C'est pour ça que je souhaite aussi un ministre des Finances de la zone euro et un Parlement européen qui le contrôle. Mais si on a le triptyque budget, ministre, Parlement, alors on va vers plus de démocratie et plus d'efficacité. Cela dit, vous savez, la Grèce était comme dans une situation avec des comptes publics falsifiés, avec des structures économiques et sociales tellement obsolètes, avec un État tellement vermoulu, qu'il fallait des réformes. Et si je devais risquer une formule, je sais qu'on est en train de déraper, je dirais que ce n'est quand même pas la crise qui a provoqué l'austérité, c'est bien, plutôt ce n'est pas l'austérité qui a provoqué la crise, c'est bien l'austérité qui est la fille de la crise et pas l'inverse.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance avec François Bernard des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Ростовище на Европа.
Кузымен туда Европа.
Ставродром из Европы.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles. Bonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours avec Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, jusqu'à hier à soir à 23h59, vous étiez le commissaire européen en charge de l'économie, des finances, de la fiscalité et même des douanes. Votre parole est désormais libérée des obligations de réserve, quoique. Et à mes côtés pour vous interroger, Catherine Chatignoux du quotidien Les Échos. La commission Juncker a-t-elle tenu toutes ses promesses secouées par le scandale des LuxLeaks, la difficile gestion de la crise grecque, la déferlante des réfugiés de 2015 ou encore l'interminable Brexit? Et puis, quel défi pour la commission von der Leyen? Alors, Pierre Moscovici, dans votre portefeuille, il y avait effectivement l'économie, la finance, la fiscalité et les douanes. On va laisser de côté les douanes pour s'attarder un peu sur la fiscalité. Cela avait plutôt mal commencé en 2014 avec, dès la nomination de Jean-Claude Juncker, la révélation des LuxLeaks. Alors, Catherine Chatignaux, les LuxLeaks en deux mots, c'est possible?
En deux mots. C'était un scandale qui a révélé l'existence de centaines d'accords secrets qui étaient passés entre l'État luxembourgeois et des grandes entreprises, plutôt de grosses entreprises multinationales, et qui étaient destinées à évidemment limiter les impôts de ces entreprises. Et ça a été révélé au tout début, vraiment...
Trois jours après.
Dès l'arrivée de la commission Juncker. Voilà.
Alors, la fiscalité, dès novembre 2014, Pierre Moscovici, vous en faites un cheval de bataille. On vous écoute en novembre 2014.
Dans ma charge de commissaire à la fiscalité, je poursuivrai trois priorités. Un, mettre en œuvre la taxe sur les transactions financières. C'est une question d'éthique, c'est aussi une question d'efficacité. Si 11 pays sont capables entre eux d'avancer sur une réforme de cette nature-là, c'est un exemple pour les autres, c'est un moteur pour les autres. Deuxièmement, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Et ça passe notamment par ce que m'a demandé le président Jean-Claude Juncker, une directive que je souhaite rapide, forte, ambitieuse, sur l'échange automatique d'informations. La troisième priorité, c'est l'harmonisation fiscale, notamment en matière de base de la fiscalité de l'impôt sur les sociétés. Je souhaite que l'harmonisation fiscale progresse de manière décisive dans les 5 années qui viennent.
Alors nous sommes exactement 5 ans après l'énoncé de ces trois priorités, taxe sur les transactions financières, échange automatique d'informations, autrement dit la fin du secret bancaire, et puis l'harmonisation fiscale et l'impôt sur les sociétés. Où en sommes-nous, Catherine Chatignoux?
Je dirais que sur les trois objectifs, il y en a deux qui ne sont pas vraiment atteints. La taxe sur les transactions financières, je dirais qu'elle est en état de mort cérébrale, je ne sais pas si c'est le terme idoine. L'harmonisation fiscale...
Comme l'OTAN, alors.
C'est ça, à peu près. L'harmonisation fiscale avec la base commune de l'impôt sur les sociétés, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un peu bloqué. En revanche, là où il y a eu beaucoup de travail, j'ai l'impression, quand même, c'est l'évasion, la lutte contre l'évasion fiscale. Et vous disiez tout à l'heure, vous aviez fait voter 20 directives, 20 textes là-dessus.
Je partage tout à fait votre analyse. Bon, encore que ces priorités étaient d'importance inégale, de probabilité inégale. La taxe sur les transactions financières, non, elle n'est pas morte, mais son ambition a beaucoup rétréci. Et il reste encore 10 États membres qui sont assez près, finalement, de conclure une taxe sur le modèle de la taxe française. Donc ça ne devrait pas être un problème pour la France, puisqu'elle a déjà la sienne. Mais disons que c'est un sujet qui n'est plus, depuis quelque temps, dans les priorités de l'Union européenne. L'harmonisation fiscale, j'aurais aimé qu'on aille beaucoup plus loin là-dessus, notamment en mettant en place ce qu'on appelle l'assiette commune consolidée d'impôt sur la société, qui permet d'éviter les transferts de profits en considérant l'Europe comme une zone unique. Nous n'y sommes pas, le projet est toujours également sur la table, mais il est bloqué, je vais y revenir, par une règle qui est très paralysante, qui est la règle de l'unanimité. Et donc il faudra aller plus loin et donc à un moment donné revoir cette règle et passer au vote à la majorité qualifiée. En revanche, sur le troisième sujet, qui a été quand même l'agenda dominant, non seulement de l'Europe, mais de la communauté internationale depuis 5 ans, c'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, j'avoue que j'ai été beaucoup, mais alors beaucoup plus loin que ce que je pouvais espérer en novembre 2014. Je pensais que ce serait une partie très frustrante de mon portefeuille. C'était en réalité la plus gratifiante. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a eu un changement de paradigme à l'échelle mondiale, le G20, l'OCDE, l'échange automatique d'informations. Parce qu'il y a eu des scandales. Un scandale, c'est toujours quelque chose de terrible, et en même temps, pour le décideur public, c'est une opportunité. Parce qu'il y a eu la presse, je veux remercier le consortium international de journalistes, parce qu'au fond, il y a eu la création d'une opinion publique européenne, les citoyens, les ONG, et au fond, ce sujet qui était mineur est devenu prioritaire dans le jugement des citoyens sur l'Europe, et pour moi, ça m'a aidé considérablement. Vous parliez des LuxLeaks. Les LuxLeaks, c'était quoi? C'était des rescrits fiscaux, c'est-à-dire ces accords secrets, qui étaient totalement opaques et qui étaient inconnus du pays voisin. Très vite, j'ai pris une directive qui a fait en sorte que l'échange automatique d'informations sur les rescrits fiscaux,
existe entre administrations fiscales. Et donc, nous avons résolu cela. J'irai plus loin. Nous avons fait voter deux directives de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. J'ai fait adopter la première liste noire de paradis fiscaux de l'histoire de l'Union européenne. Et c'est incroyablement efficace, parce que pour ne pas être sur la liste, les pays sont en train de revoir des régimes fiscaux dommageables. J'ai fait voter également ce qu'on appelle le CBCR, c'est-à-dire le reporting public par pays, pays par pays, des données comptables et fiscales des multinationales. Maintenant, on les connaît. Ça n'est plus quelque chose de secret. Enfin, je ne veux pas être exhaustif, j'ai fait voter une directive qui est assez controversée par certaines professions, mais qui est néanmoins utile, qui est la transparence sur les activités des intermédiaires, les conseillers juridiques, les conseillers fiscaux, les avocats, qui sont, à partir de 2020, censés transmettre à leur administration fiscale les montages de planification fiscale agressive qu'ils vendent à ses clients. 20 directives au total. C'est plus, et en quantité et en importance, qu'auparavant. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu, pendant ces 5 années, une révolution de la transparence. Je souhaite qu'elle ne s'arrête pas. Je ne voudrais pas qu'on revienne au plan-plan habituel. Il est très important qu'on continue à avoir cette ambition-là. Ce sont les citoyens qui l'ont voulu. Ce sont les États qui le veulent. Il reste encore bien du travail. Je vais citer une chose sur laquelle je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. C'est la fiscalité du numérique. Je souhaite qu'à l'OCDE, on ait un accord rapide sur une taxation intelligente du numérique à l'échelle non seulement européenne, mais aussi mondiale.
Parce que paradoxalement, ces grandes multinationales ne payent toujours pas leurs impôts. Il y a peut-être moins de fraude, plus de transparence, mais enfin, ces GAFA ne payent pas les impôts qu'elles devraient en Europe.
Là-dessus, j'ai travaillé main dans la main avec ma collègue Margaret Vestager. J'avais l'habitude de dire qu'au fond, elle réparait, je préparais. C'est-à-dire qu'elle réparait les imperfections des législations antérieures, je préparais les législations du futur pour que ce qu'elle condamnait ne puisse pas se reproduire. Mais quand même, quand Margaret Vestager, et ça, elle a fait une vraie révolution, elle aussi, dans la jurisprudence, considère que si un État a un régime fiscal trop favorable, c'est assimilable à une aide d'État et donc passible d'une amende, comme ça a été décidé pour Apple en Irlande pour 13 milliards d'euros, là aussi, c'est sans précédent. Et ça conduit, y compris les GAFA, comme vous dites, j'aime pas parler des GAFA, moi, les grandes entreprises du numérique, à changer leur comportement et à entrer dans une attitude qui soit coopérative. Et ils n'échapperont pas, je vous le dis ce soir, ils n'échapperont pas à la grande réforme internationale qui est en train de se préparer à l'OCDE et dont l'Europe, j'en suis persuadé, sera la première avocate et la première à envisager la mise en œuvre, comme elle l'a fait pour les mesures antécédentes de l'OCDE. Ils n'y échapperont pas. Il y aura une taxation qui ne sera plus uniquement sur l'endroit où il y a un siège, mais sur le lieu de consommation, parce qu'on arrivera à identifier l'activité de ces entreprises. Il y aura un taux minimum. Vous savez, cette histoire de taux minimum, c'est très important, parce que...
Aujourd'hui, le taux minimum, c'est 12%.
C'est 12,5%.
En Irlande, 10% en Hongrie, je crois.
Vous savez, 10% ou 12,5%, c'est sans aucun doute trop peu. Mais c'est quand même significatif. Mais quand une entreprise comme Apple en Irlande paye non pas 12,5%, mais 0,005%, là, on est effectivement en dehors des clous.
Au-delà du scandale.
Il faut distinguer la taxation nominale, c'est-à-dire le chiffre facial, de la taxation effective, compte tenu de toute une série de déductions ou d'accords, justement, qui ne sont pas possibles. Et donc, je crois vraiment qu'on a fait là des progrès décisifs, c'est pas fini, et la grande bataille qui nous attend, c'est bien celle de la transformation de la fiscalité des entreprises. Pourquoi ? La fiscalité des entreprises, elle a été définie il y a une centaine d'années, en vérité. Et c'est très simple, ce qui la définit, c'est la présence physique. J'ai été pendant 20 ans député à Sochaux. Sochaux, il y a une usine. Donc vous savez combien de voitures on y fabrique. C'était 300 000 dans le temps, c'est 500 000 maintenant, tant mieux. Vous savez combien il y a de salariés. Malheureusement, il y en a moins. Vous savez quel est le chiffre d'affaires. Vous savez quel est le profit généré. Boum, vous taxez.
C'est facile.
C'est facile. Pour une entreprise du numérique, vous ne connaissez rien de tout ça. Il n'y a pas d'établissement physique stable. On ne connaît pas toujours le nombre de salariés. On ne connaît pas l'activité. On ne connaît pas le profit. Et voilà pourquoi il faut en effet avoir de nouvelles règles de fiscalité en la matière. Et il faut aussi une taxation minimum qui soit non seulement nominale, mais aussi effective. Ça, ce sont les deux piliers de la réforme que propose l'OCDE, l'Union européenne, la Commission européenne y est favorable. Je sais que la France y est aussi favorable. Je pense qu'on est près d'un accord. Et à partir de ce moment-là, il faudra que l'Union européenne reprenne les deux directives qui sont sur la table, qui ont failli aboutir, mais qui ne l'ont pas fait. Encore une fois, cause d'unanimité.
Alors néanmoins, Pierre Moscovici...
J'ai encore une réflexion systémique sur le sujet. Je pense que tout ce qui est lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, pour des raisons citoyennes, c'est devenu un sujet consensuel. Et donc on peut faire des directives à l'unanimité en la matière. Par contre, les grandes directives structurelles, je pense à la réforme de la TVA, Je pense à l'assiette commune consolidée. Je pense à la fiscalité du numérique. Je pense aussi à la fiscalité de l'énergie, qui doit être aussi une des priorités de la prochaine commission. Tout ça n'avancera pas suffisamment si on ne passe pas de l'unanimité au vote à la majorité qualifiée. Donc, je le dis, j'ai fait une communication, comme on dit, il y a quelques mois là-dessus. C'était en quelque sorte mon testament. Nous devrons passer progressivement de l'unanimité à la majorité qualifiée en matière fiscale, si nous vraiment changer nos structures
fiscales. Qu'est-ce qui peut convaincre les pays de le faire?
Il y a toujours ce dumping fiscal entre les pays européens.
Mais l'opinion publique, la pression, le rapport de force, vous savez.
Mais les Irlandais, ils sont assez favorables à ce que la pression fiscale soit faite faible sur leur entreprise.
Quand j'étais ministre des Finances, il y avait une directive qui s'appelait la directive sur l'épargne, qui restait sur la table jusqu'au bout de mon passage à Bercy, qui a été votée à la toute fin, mais elle était déjà obsolète, hein, en réalité, avec l'échange automatique d'informations. On a aussi mis fin au secret bancaire, pendant ces années-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que des pays, comme l'Autriche et le Luxembourg, bloquaient tranquillement. Personne n'en parlait. Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait adopter 20 directives? Vous pensez qu'ils sont devenus gentils, comme ça, tout à coup? Et d'où? Non! C'est la pression des pairs. C'est la pression de l'opinion, c'est la pression de la presse, c'est la pression des scandales. Non, un pays membre, aujourd'hui, ne peut plus tranquillement dire « Ok, ça c'est bien, ça c'est propre, ça c'est nécessaire, mais parce que j'ai mon petit régime national, je ne le ferai pas ». Je vais citer un exemple, le Luxembourg, justement, pays de Jean-Claude Juncker, avec un autre Premier ministre maintenant, Xavier Bettel, et le ministre des Finances, Pierre Gramegnard. J'étais avec lui il y a quelques jours, et dans un colloque, et il a dit « Mais oui, nous avons changé, pourquoi ?» Pour la réputation du Luxembourg. Cet effet réputationnel est désormais décisif. C'est la raison pour laquelle ces questions fiscales sont en train d'échapper au secret de la salle du Conseil pour entrer dans le débat public. Et quand je parle de révolution de la transparence, pour qu'elle ne s'arrête pas, il faut que le débat public ne faiblisse pas. Je compte sur les journalistes, notamment, pour continuer à creuser, révéler, avancer. Parce que c'est ça qui sera le carburant pour les décideurs publics qui me succéderont.
Alors, le point commun entre toutes ces entreprises multinationales et du numérique, c'est qu'elles sont presque toutes américaines. Et ça devient quand même difficile de négocier, de parler, d'établir un rapport de confiance avec Donald Trump à la tête des États-Unis. Est-ce que l'Union européenne, pendant la commission Juncker, jusqu'à hier, a pris les bonnes décisions par rapport aux Américains?
Il y a un danger qui menace le monde, c'est la démocratie libérale, c'est le nationalisme, c'est l'unilatéralisme. Comme commissaire, je représentais la Commission européenne au G20. Et j'ai vu le monde changer. Aujourd'hui, à la table du G20, ce n'était pas le cas quand j'y ai commencé en 2012 comme ministre des Finances français. Vous avez Poutine, vous avez Xi Jinping, vous avez Donald Trump, un président pour le moins atypique. Vous avez Monsieur Bolsonaro, vous avez Erdogan, vous avez le Premier ministre indien, Modi. Vous avez ici ou là des relents de nationalisme un peu partout. Et vous avez en face, et ça c'est très important, les Européens, qui continuent à défendre des valeurs, qui sont les valeurs de la démocratie, les valeurs de la transparence, les valeurs de l'égalité, égalité entre les hommes et les femmes, égalité et refus de toute discrimination. Et c'est pour ça que l'Europe est belle, vous savez. Et pourquoi est-ce que je fais ce détour? Pour dire qu'évidemment, nous avons des conflits potentiels avec M. Trump. Nous avons des désaccords, notamment sur le commerce. Nous avons des désaccords puissants sur le multilatéralisme. Il veut le remettre en cause. Nous y croyons. Mais, je dois dire qu'il y a un sujet sur lequel il n'a été plutôt plus facile de travailler avec l'administration Trump qu'avec l'administration Obama. C'est la fiscalité du numérique. Pourquoi? Parce que le problème se pose aussi aux Américains. Vous savez, ce sont des gens très pragmatiques. Et donc, j'ai bon espoir que les travaux de l'OCDE soient des travaux qui permettent de faire un consensus dans lequel on trouvera toutes les parties prenantes, y compris les Américains. Et donc, il faut continuer à discuter avec eux. Moi, je ne suis pas du tout dans la logique selon laquelle les Américains peuvent devenir des ennemis. Quand Donald Trump avait prononcé cette phrase, vraiment, mon poil s'était hérissé. Non, nous sommes...
Ils avaient pourtant...
Nous sommes des partenaires, nous sommes des alliés. Il faut que nous redevenions complètement, et à tous les sujets, des amis, et qu'on fasse un effort de rapprochement des positions. Et ça, au fond, ce sont aussi les électeurs américains qui trancheront ça.
Un mot sur la politique fiscale. Dans le cadre du Brexit, la volonté de Boris Johnson, c'est de créer un grand Singapour sur Tamise. Est-ce que ça vous paraît une idée raisonnable, possible? Est-ce que l'Union européenne pourra faire face à cette idée qu'a Boris Johnson d'avoir un grand, grand paradis fiscal aux portes de l'Union européenne?
Ça ne me paraît ni raisonnable ni possible. Vous savez, pour deux raisons. La première, c'est parce que le Royaume-Uni est justement un pays du G7, un pays du G20, un pays de l'OCDE, et que le Royaume-Uni a adopté toutes les normes internationales en la matière, et il ne pourra pas s'y dérober. C'est juste impossible. Et il ne voudra pas s'y dérober. Là encore, la pression des pairs va continuer à jouer. Et puis, la deuxième chose, c'est que pour faire ça, il faut perdre des ressources budgétaires, creuser les déficits, faire enfoncer les finances publiques et que ça a un coût en retour sur la dette et sur la crédibilité du pays qui est énorme. C'est pour ça que il y aura toujours une compétition fiscale. Moi, je suis un social-démocrate. Je continue de penser qu'il faut un niveau raisonnable d'imposition, pas excessif, mais il faut aussi de quoi financer les services publics. D'autres sont plutôt pour une taxation plus faible. Ils sont plus libéraux, plus à droite, si vous voulez. Mais la compétition fiscale est légitime. La concurrence fiscale sauvage, l'abolition des règles, ça, c'est juste pas possible. Et Boris Johnson sera sans doute très compétitif sur le plan fiscal, mais il ne créera pas son grand Singapour sur Tamise. Ça n'arrivera pas, ça ne peut pas arriver, ça ne doit pas arriver. Non, vous ne le verrez pas.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour d'Europe avec Pierre Moscovici. Alors, on a beaucoup parlé des 5 ans passés à la tête de la commission Juncker. On va parler un petit peu de la nouvelle commission qui a pris ses fonctions ce matin, la nouvelle commission d'Ursula von der Leyen. Alors, si la commission Juncker était celle de la dernière chance, que dire de la commission Ursula von der Leyen?
Peut-être de la prochaine chance. Non, j'ai utilisé une autre référence. Quand Jean-Claude Juncker est arrivé à la commission, il a dit « Nous sommes une commission politique ». Ça a pu choquer, ça a pu interroger, mais c'était vrai. Nous étions politiques au sens où d'abord nous étions des hommes et des femmes politiques, tous anciens ministres, anciens premiers ministres, nous appartenions tous à des formations politiques. Moi, je suis un membre du Parti Socialiste Européen, d'autres étaient des conservateurs, comme M. Dombrovskis, c'était le troisième des libéraux. Nous avons été plutôt une bande d'amis, nous avons plutôt travaillé au consensus, nous avons su résoudre nos différences. Il y en a eu avec Valdis Dombrovskis, mais sans conflit, en tout cas sans conflit ouvert. Mais nous avons fait de la politique au sens où nous avons aussi donné un cap à l'Europe. Quand nous avons décidé de refuser le Grexit, c'est politique. Quand nous décidons de mettre de la flexibilité dans les politiques budgétaires, c'est politique. Quand Jean-Claude Juncker, qui sait ce qu'il fait, me confie le portefeuille fiscal et me dit « tu as bride sur le coup, tu peux faire ce que tu veux, tu as carte blanche pour lutter contre la fraude fiscale ».
Il en
allait
aussi de sa réputation.
Il en allait de sa réputation, exactement. Ben, je suis pas naïf. Mais c'est plutôt habile de sa part. Est-ce que c'est bête d'être habile? Est-ce que c'est stupide d'être habile? Non, il avait raison. S'il avait fait la politique de l'autruche, alors à ce moment-là, les choses seraient passées très mal. Et on a vu que le président de la Commission était autre chose que l'ancien premier ministre du Luxembourg. Et donc, ça, je pense que c'était plutôt bien joué. Donc, il y avait de la politique là-dedans. Ursula von der Leyen dit commission géopolitique. Eh bien, j'approuve aussi. Pourquoi est-ce que j'approuve?
Ça veut dire que le monde a changé en 5 ans?
Mais oui, c'est exactement ce que je vous disais il y a quelques minutes sur le glissement illibéral, sur le glissement nationaliste, sur le glissement unilatéraliste. Et là, il faut que les Européens soient capables de savoir qu'ils ont un modèle. Les Français, les Italiens, pour le moment, les Allemands, les Britanniques, qui resteront Européens, même s'ils quittent l'Union Européenne, la Commission Européenne, j'y mettrais, pardonnez-moi, nos cousins canadiens, qui partagent ces valeurs, ont des valeurs particulières, attachant au multilatéralisme, attachement à la démocratie, au niveau d'éducation, au niveau de protection sociale, refus de la peine de mort. Et donc, il faut absolument que les Européens s'unissent davantage. Et notamment, un des sujets d'unité, c'est sans aucun doute la défense européenne. Un autre sujet, c'est ce Green New Deal. Si je devais résumer ce que je crois être les 3 défis pour la Commission von der Leyen, je dirais d'abord le défi démocratique. Faire en sorte que nos citoyens se reconnaissent encore mieux dans l'Union européenne. Les élections européennes dernières ont été plutôt
intéressantes.
Très intéressantes d'abord parce qu'il y a eu beaucoup plus de participation.
Plus de 8% d'une manière générale.
Et parce
à peu
que
près,
les pro-européens l'ont emporté nettement, contrairement à ce que certains espéraient.
Il n'y a pas eu de vague.
Non, la vague populiste, elle a existé, mais elle était contenue. Elle n'a pas continué. Et ils ont donc, du coup, été défaits relativement. Ce qui prouve qu'il y a encore une confiance forte dans l'institution et dans la démocratie. Mais ça, il faut aussi ouvrir la porte et les fenêtres. Je pense notamment au vote à la majorité qualifiée. Je pense aussi à l'Eurogroupe qui doit cesser d'être une boîte noire. C'est pour ça que je milite pour un ministre des Finances de la zone euro. Donc, premier défi, le défi démocratique.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des États qui, de l'intérieur de l'Europe même, cherchent à saper ces régimes libéraux?
Bien sûr.
Donc, comment il y a des libéraux. Quand de l'intérieur même,
vous savez,
y compris au sein de la Commission.
Je pense qu'ils n'y sont pas indifférents. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec le choix de la Commission. Au final, et M. Orban et M. Kaczynski ont choisi des candidats
eurocompatibles.
En tout cas, suffisamment, ou qui ont pris des engagements suffisants pour le Hongrois. Et donc, ils savent bien, ils manient l'affaire avec des œufs pour une raison très simple, c'est que et la Pologne et la Hongrie vivent à grands coups de fonds structurels, et donc il ne peut pas y avoir de conflit. Et tout de même, il y a une loi majoritaire qui est extrêmement puissante. Donc ça, je crois à ça. Donc le premier défi, c'est le défi démocratique. Mais il faudra continuer à... Alors ça, je pense qu'il faut une très grande vigilance sur l'état de droit. Mmh. Le respect de l'état de droit. La commission Juncker, avec Frans Timmermans, ça a été extraordinairement méticuleuse. J'espère que la prochaine le sera tout autant. J'observe que le PiS polonais, par exemple, a voté pour la commission. Ça ne doit pas être interprété comme étant un droit de faire n'importe quoi. Pour premier défi, le défi démocratique. Le deuxième défi, c'est le défi économique. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous aurons probablement, dans les 5 années qui viennent, un ralentissement plus ou moins marqué. Il existe déjà. Est-ce qu'il sera plus prononcé? Ça dépendra de risques internationaux, comme par exemple les tensions commerciales Chine-États-Unis. Je n'en sais rien. Mais il faut être prêt. D'où cette relance coordonnée, d'où cette révision des règles, d'où cette priorité pour l'investissement que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, le troisième défi, c'est le défi climatique. Nous avons parlé de dernière chance, Jean-Claude Juncker parlait de dernière chance économique. La commission von der Leyen est la commission de la dernière chance climatique. Si nous voulons faire de l'Union européenne, de l'Europe, le premier continent qui soit neutre sur le plan carbone d'ici à 2050, il faut vraiment mettre un paquet considérable. J'ai vu que Ursula von der Leyen dit qu'elle va l'annoncer très rapidement, d'ici le 11 décembre. Elle a raison, parce que même si je ne crois pas à la thèse des 100 jours, je sais qu'il faut aller vite. Par exemple, le plan Juncker a été lancé immédiatement après que nous ayons pris nos responsabilités. Donc voilà 3 très grands défis. Je souhaite vraiment... Vous savez, c'est très compliqué de juger une commission avant qu'elle démarre. Moi, je ne peux pas porter de jugement ni sur les individus, ni sur le collectif. Mais je souhaite qu'elle réussisse. Parce que la commission est une institution unique et indispensable à l'Europe. Quand la commission ne va pas, l'Europe ne va pas. Non pas parce qu'elle est le gouvernement de l'Europe, ça c'est pas vrai, mais parce qu'elle est l'institution qui pilote, anime, impulse. C'est celle qui prend les initiatives. Quand la commission tousse, l'Europe est malade. Et voilà pourquoi je souhaite que cette commission réussisse. Je souhaite très bon vent à la nouvelle équipe.
Alors, vous avez mis en évidence 2 points forts. Développer l'Europe de la défense face à les incertitudes du monde dans lequel nous vivons. Et puis le Green Deal. Pour ça, il faut de l'argent. Il faut donc qu'on revienne sur cette question de budget.
Alors, c'est pas tout à fait pareil. D'abord, sur la défense, il y aura d'une part des contributions qui doivent être plus fortes de la part des États membres. Je note que l'Allemagne essaie de faire un petit peu plus, déjà. C'est plutôt bon signe. Il faudra qu'il y ait un fonds européen de défense. Nous l'avons créé, mais qui
commence
par la recherche, le développement. Ça, c'est important, mais qui... gagnant.
On n'est pas dans l'opérationnel.
Et ça, ce sera une des tâches de Thierry Breton, notamment, le commissaire français. Et donc, ça, ce sont 2 choses tout à fait décisives. Il faudra aussi qu'il y ait sans doute de la géométrie variable, parce que tout le monde ne voudra pas faire les choses ensemble. Il faudra qu'il y ait une doctrine commune. Donc, il y a tout un travail à la fois financier, intellectuel, économique à mener, et surtout, derrière ça, politique. Moi, je pense que les Européens doivent être conscients maintenant, Trump ou pas Trump, parce qu'il y a quelque chose qui continuera, quel que soit Trump, il aura un successeur. Je n'ai pas à m'immiscer dans les élections américaines, mais je peux avoir comme ça quelques intuitions, quelques envies comme citoyen. Les Américains, nous ne pouvons pas compter éternellement sur leur parapluie. Il faut vraiment que dans un monde qui est dangereux, avec des menaces qui sont nouvelles, les Européens soient capables de prendre leur destin en main. Et quand je vois ce qui se passe au Sahel, je dis aussi que la France, qui sera la seule puissance nucléaire de l'Union européenne, le seul membre permanent du Conseil de sécurité de l'Union européenne, si le Royaume-Uni sort, je dis que la France a à la fois une responsabilité particulière, mais ne peut pas non plus se substituer aux autres Européens. Et là, le président a raison d'appeler à l'unité des Européens autour d'un concept de défense commun.
Pour le Green Deal, est-ce qu'il faut l'équivalent d'un nouveau plan Juncker ?
Il faudra sans doute un plan Juncker et encore plus approfondi, encore plus ambitieux, parce que ce sont non pas des centaines de milliards, mais des milliards, milliers de milliards d'euros qu'il faudra mettre en œuvre. Mais pour le coup, j'attends vraiment les annonces de Mme von der Leyen. Je les attends rapidement et je les attends avec confiance, parce que manifestement, elle est consciente que c'est là la priorité des priorités. On ne peut pas se louper. Il y a une exigence. Vous savez, on parlait tout à l'heure de la participation. Le surcroît de participation, qu'est-ce que ça a été? C'était des pro-européens, des jeunes, avec une aspiration écologiste. C'est ça qui a sauvé les élections européennes. Et à ceux-là, parce qu'ils expriment une envie, un besoin, on doit répondre avec ambition, sans mégoter. Et je compte vraiment sur la prochaine commission pour faire des propositions ambitieuses. Mais j'ajoute, sur les États membres, pour les endosser. Parce qu'attention, Jean-Claude Juncker avait toujours une formule, lui qui avait été membre du Conseil européen, ministre, moi j'ai été ministre, membre du Conseil, pendant 7 ans, bon, avant d'être commissaire européen, il disait, nous proposons, mais ils décident. Les citoyens ne se rendent pas compte de ça, ils voient la Commission comme une espèce de monstre omniprésent. puissant. Non, elle n'est ni un monstre, ni omnipuissante. Elle est une institution originale, assez limitée. 33 000 fonctionnaires à la Commission,
c'est
40 000
à Paris, c'est ça.
J'ai des mises et finances, il y avait 160 000 à l'époque. Vous vous rendez compte. Mais c'est à taille humaine, mais c'est une force d'impulsion. La décision, elle est toujours chez les États membres.
Quand on dit que la Commission n'est...
Alors, Pierre, parce que on arrive presque, Catherine Chenu, je suis désolé, au terme de cette émission, j'ai un œil sur la pendule. Pierre Moscovici, vous avez 62 ans, vous avez été député européen, plusieurs fois ministre, et enfin commissaire européen. Est-ce qu'il y a une vie après la Commission européenne?
Ah oui, parce que j'ai 62 ans, c'est terrible de penser ça, parce que je me retourne, je vois que j'étais jeune quand je suis devenu président.
À 60 ans, on peut parfois prendre sa retraite. Hein.
D'abord, je n'y ai pas le droit. En plus, je n'en ai pas envie. Je pense que j'ai encore assez d'énergie, assez de force. J'ai acquis de l'expérience. Donc, il y aura une vie. Laquelle, je ne sais pas. Demain matin, je retournerai à la Cour des comptes parce que c'est mon corps d'origine. Et puis, je serai appelé à enseigner à Sciences Po, à Columbia, au Collège de Bruges, un peu ailleurs, à donner des conférences, à m'exprimer. Je resterai un acteur public et politique. Vous savez, quand vous avez ça dans le sang, ça vous quitte pas. Et tant que vous avez de la force pour vous exprimer, vous vous exprimez. Donc, si vous avez la gentillesse, par exemple, de m'inviter un jour, là, je serai encore plus libre, avec encore moins de réserve, et je serai toujours un homme qui croit à son pays, à l'Europe, et puis aussi aux idées de gauche qui sont les miennes, d'une gauche réformiste et pro-européenne.
Merci Pierre-Bernard d'avoir été au carrefour de l'Europe avec Catherine Chatignoux des Échos, Benjamin Morand de Courrier International, avec Maria Afonso, réalisation Hélène Avril. Pour écouter ce carrefour de l'Europe en podcast ou en balado-diffusion, comme on dit joliment au Québec, le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio, on reste en contact via Twitter et Facebook. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Bruxelles, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite le journal de Philippe Le Caplain sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Priorité santé.